Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, après ces consultations, c'est de vous, auditeurs d'Europe 1, qu'il vient prendre soin. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera une sorte de guide de survie pour les jeunes parents après la naissance de leur bébé. Ces petites choses, on les attend pendant 9 mois et pourtant, une fois le premier cri poussé, devenir parent peut s'avérer compliqué. Il faut dire ce qui est. À la sortie de la maternité, 1000 questions peuvent fuser dans notre tête. Comment bien changer la couche, être certain qu'il a mangé suffisamment ou encore comment décoder les pleurs de son nourrisson. Pour vous éclairer, pour vous rassurer, aujourd'hui nous recevrons le docteur Arnaud Fersdorf. Il est pédiatre réanimateur et l'auteur du livre « Bébé, premier mode d'emploi » chez Hachette Famille. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », on fera un zoom sur le zona. Savez-vous quels sont les symptômes de cette maladie? Comment on la traite et même comment on la prévient? Eh bien, le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout ce qu'il faut savoir. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle va nous parler sexualité et ménopause.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Arnaud.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je suis un petit peu gêné par rapport à ma question, mais voilà, j'ai un furoncle actuellement sur la fesse droite qui me fait mal quand même depuis quelques semaines. Je le désinfecte régulièrement. Mais il reste toujours là et j'avoue que je ne sais pas si ça va passer tout seul ou s'il faut que je consulte. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, un furoncle sur les fesses, si je ne me trompe pas, c'est plutôt un truc d'homme hein, d'ailleurs.
Oui, vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle. Alors, c'est vrai que malgré tout que c'est plus fréquent chez les hommes, les adolescents...
Je dis ça parce que vous en aviez déjà parlé, pas du tout en connaissance de cause.
J'en ai parlé, pas à titre personnel, oui, hein, à titre je donnais un avis pour quelqu'un. Alors, c'est vrai que c'est plus fréquent chez les hommes, et en particulier les adolescents et le jeune homme, puisque à ce moment-là, le jeune homme va avoir une hypersudation, plus de transpiration et une peau qui est plus grasse, plus propice à la macération et donc à la survenue de petites infections comme un furoncle. Mais c'est pas tout, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont prédisposées à en faire, notamment les personnes immunodéprimées, celles qui sont diabétiques ou celles qui sont en surpoids. Et donc finalement, le furoncle, ce n'est pas qu'une histoire de monsieur...
voilà. Comment on fait la différence d'ailleurs? Parce qu'il dit furoncle de lui-même, mais c'est quoi la différence entre un furoncle et un petit bouton?
Alors les deux sont une infection bactérienne. La seule chose, c'est que le furoncle, c'est une infection un peu plus profonde. La cavité est plus inflammatoire et surtout, c'est centré par un poil. Et donc, il y a un poil qui va s'infecter.
Ça va faire comme un abcès un peu.
Exactement. Et ça évolue ensuite, ça est beaucoup plus inflammatoire. Il y a souvent du pus qui sort, mais même chose avec un petit bouton. Mais la différence entre les deux, c'est que l'un est centré par un poil et l'autre non.
D'accord. Comment ça se traite? Est-ce que, enfin, en tout cas, au moins au départ, comme le décrit Arnaud, est-ce qu'on peut faire quelque chose à la maison sans forcément consulter? Est-ce qu'il faut le percer d'ailleurs? Parce que certains peuvent se poser
c'est vrai,
la question.
C'est vrai. Et certains adorent percer les boutons, ouais. Notamment les boutons dans le dos. Je trouve ça immonde pour un patient qui dit ça, mais peu importe. Alors tout d'abord, il y a certains facteurs prédisposants. Si vous transpirez beaucoup, vous êtes plus à risque de faire des furoncles. Aussi, si jamais vous avez une hygiène insuffisante, si vous ne lavez pas correctement les fesses, eh ben, donc forcément, il y a un risque plus important. Et puis, il peut y avoir un portage chronique, c'est-à-dire que dans le nez, vous avez du staphylocoque doré qui persiste, un petit foyer, et comme c'est contagieux, vous allez faire une auto-contamination et donc
du
en disséminer
fesses,
partout.
J'ai du mal à comprendre, mais...
Vous mettez votre main dans les fesses, vous grattez, vous touchez, donc d'accord. Vous pouvez en avoir partout, sous l'aisselle, sur le visage, dans le dos, donc attention à ça. Et puis, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Donc, quand on en fait un, on peut en faire d'autres. Et donc, souvent, la désinfection suffit avec un antiseptique, d'accord. Une compresse, parfois une pommade antibiotique, et parfois ce n'est pas suffisant, mais si quelqu'un doit le percer, c'est le médecin. Pas vous, vous ne touchez pas.
Et dans quel cas, vraiment, il faut consulter rapidement?
Lorsque ça évolue vers un abcès, une grosse collection du liquide, c'est douloureux, c'est inflammatoire, ça ne passe pas, et surtout, on ne prend pas d'anti-inflammatoire pour un furoncle, ça risque d'une surinfection. Et donc, à ce moment-là, on doit faire un petit coup de bistouri pour vider tout ça.
Merci beaucoup, Jimmy. Passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Micheline qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Je voudrais une réponse pour les bobos, les petits bobos. J'ai consulté récemment mon phlébologue qui m'a trouvé une hypodermite dans les jambes. Et c'est très invalidant car si je me mets dans mon lit les jambes couvertes avec ce qu'il faut, quoi, les jambes me brûlent. Est-ce que je pourrais avoir une réponse du docteur Jimmy Mohamed? Merci d'avance. Au revoir.
Alors Jimmy, même si on n'a pas le droit, on ne fait pas de radioconsultation pour un cas précis, est-ce que d'un point de vue général, déjà, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la l'hypodermite?
Oui, l'hypodermite, on appelle ça aussi la dermoépidermite, celle qui est la plus connue, la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'érysipèle, c'est l'infection de jambes, c'est une infection bactérienne. Mais là, elle dit que c'est son phlébologue qui l'a dit, et on sait qu'il y a des hypodermites qui sont liées à une insuffisance veineuse. Dans un premier temps, vous avez des petites varices, elles ne sont pas douloureuses, souvent derrière le genou, sur la face externe de la jambe, elles évoluent petit à petit, elles évoluent jusqu'au stade de l'ulcération. Et on sait que chez certaines personnes, il va y avoir, à cause de cette insuffisance veineuse, de l'inflammation qui va simuler ce qu'on appelle un érysipèle dont je vous ai parlé, et donc qui va simuler une infection de jambe. C'est donc une simulation d'infection en quelque sorte.
Et alors, même si on ne va pas répondre à Micheline directement, il faut qu'elle voit ça avec son médecin évidemment, mais comment ça se traite?
Alors, ça ressemble à une infection. C'est une grosse jambe rouge, douloureuse. Et donc parfois, on va donner des antibiotiques à tort. Là, c'est son phlébologue qui a tiré la sonnette d'alarme. Alors peut-être qu'il lui a donné des antibiotiques, mais souvent on a recours à des bas de contention pour prévenir ça, car on n'a pas de traitement suffisamment efficace. Et parfois, le phlébologue agit avant ce stade-là, donc c'est sclérosé, des petites varices, pour éviter ça, et même si, encore une fois, le traitement n'est jamais parfait.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Micheline, qu'on vient d'entendre, vous nous laissez vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Arnaud Fersdorf. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre « Bébé premier mode d'emploi » chez Hachette Famille. Un livre très pédagogique qui répond à franchement quasi toutes les questions qu'on peut se poser à la naissance. J'aurais bien aimé l'avoir moi quand c'était le moment. Parce qu'on a beau se préparer, on a beau être très informé aujourd'hui, s'il y a une chose qui change pas les années passant, c'est qu'une fois qu'il est là, ce bébé qu'il a poussé son premier cri, bah pour les parents, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi beaucoup de questions, hein, finalement, et d'angoisse parfois.
Alors c'est vrai, beaucoup de questions, et notre rôle, c'est de minimiser ces questions pour retenir les essentiels. C'est-à-dire, le principe du guide, c'est qu'il ne faut pas non plus noyer le lecteur dans des masses d'informations, sinon il ne sait plus où donner de la tête. Et une maman qui vient d'accoucher, on le sait, elle n'est pas forcément réceptive, il faut vraiment aller à l'essentiel pour qu'elle retienne des points importants.
Alors là, aujourd'hui, c'est le papa qui va vous parler par le médecin, mais j'ai le souvenir, quand on sort de la maternité, une angoisse immense.
Pourtant,
de quitter.
Vous êtes médecin, mais c'est pas
malgré
possible,
tout,
même
une
les
angoisse
médecins.
Terrible, mais ce qu'il faut se dire, c'est quand on sort de la maternité, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tout va bien.
C'est une très bonne nouvelle, surtout en ce moment, on fait sortir de plus en plus tôt.
Moi, j'avais envie de rester encore quelques jours, je me souviens, on me dit non, tu rentres chez toi.
Il y a des pays comme l'Angleterre où on rentre le soir même, hein. Les mamans viennent à peine pour une journée, rarement une nuit. On y arrive petit à petit, mais bon. On a un rôle important d'accompagnement.
Mais si on nous laisse sortir, c'est que le bébé est en bonne santé.
Parce que
moi,
c'est que
j'avais très peur de me retrouver chez moi et de me dire, oh là là, mais s'ils n'ont pas vu quelque chose, est-ce que je vais savoir repérer que quelque chose va mal? Mais non, si on sort, le bébé a eu deux examens médicaux, au moins du pédiatre.
Il y a une validation de l'équipe, du pédiatre en particulier. D'ailleurs, l'obstétricien vient toujours nous voir en disant, est-ce que tu m'autorises à faire sortir la mère? Est-ce que pour le bébé, c'est validé? On fait un dernier examen et quand il y a un petit truc qui reste, un ictère à surveiller ou autre chose, et qu'on sait qu'on ne va pas forcément retenir le bébé et la maman en maternité à cause de ça, on les fait rentrer s'il le faut. Il y a une visite d'une sage-femme précoce, une visite chez le pédiatre plus précocement, etc.
Puisque à la naissance, du coup, tous les enfants, même quand ils vont bien, ils sont examinés par un pédiatre. Ça fait partie des examens obligatoires?
Oui, alors il y a parfois un premier examen en salle de naissance quand l'accouchement est un peu chaud, un peu olé-olé, comme on dit dans notre jargon. Là, à ce moment-là, on sera présent pour voir si tout se passe bien. Il y a une première visite qui se fait en général au bout de 24 heures, parfois plus tôt, en fonction de ce que nous disent les sages-femmes et les puéricultrices. Et puis, il y a une visite de sortie, quand on a le temps de la faire, où on va voir d'autres choses
vous
qu'on n'a pas
quoi,
forcément
vues. Vous regardez quoi, cette visite de sortie? Vous regardez les hanches vont bien? Je me souviens qu'on regardait les hanches, je ne savais pas pourquoi. Mais...
Les hanches, c'est très important. Alors, je ne sais pas si vous avez des cousins bretons ou pas,
non.
Mais il y a la fameuse histoire du breton. Les bretons ont plus de problèmes de luxation de hanches que d'autres. Donc, on vérifie les hanches, on vérifie le cœur, on vérifie s'il n'y a pas une jaunisse, on vérifie si l'allaitement se met bien en route, on vérifie s'il n'y a pas de reflux, si le transit est bon. Il y a plein de choses à voir. Et rien qu'en observant un bébé qu'on voit, si possible, entre les deux parents, à la vision, on voit déjà pas mal de choses.
Et à ce moment-là, donc, on a le go pour sortir de la maternité. Le médecin dit « Ok, c'est parti ». Et on repart avec une petite ordonnance de vitamines. Elles sont très importantes, ces vitamines, ou c'est pas très grave?
Oui, d'ailleurs, j'ai eu un cas il y a quelques jours d'un bébé qui a fait une hémorragie digestive. C'est très, très rare. Et c'est pour ça qu'on donne la vitamine K à la maternité, au 8e jour et au 1er mois. C'est une vitamine qui évite des problèmes d'hémorragie, de coagulation. C'est très rare. Il y en a très peu, cette vitamine K, dans le lait maternel. C'est pour ça qu'on le donne. Et puis, on prescrit aussi la vitamine D, qui est essentielle pour la croissance, pour le calcium.
Une fois qu'on rentre à la maison, ce bébé, on le découvre, on l'examine sur toutes les coutures, sur tous les angles, la lumière, et parfois, on se rend compte qu'il a des petites taches qu'on appelle un angiome. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant, ou c'est quelque chose qui est plutôt bénin et qui part tout seul ?
Alors, les angiomes, il y en a différents types. C'est vrai que j'en parle quelque part dans mon livre. Les angiomes, il y a des angiomes blancs. Beaucoup d'enfants ont ça, ces petites taches rouges, en général dans le cou. Ou parfois, il peut y avoir ça sur le front ou
sur les paupières aussi.
Sur les paupières. Ouais. Et d'ailleurs, plus un enfant est prématuré, plus il peut y avoir d'angiomes. On rassure les parents, ça va partir avec le temps. Et puis, un deuxième type d'angiome, c'est ce qu'on appelle des angiomes immatures. Alors, ceux-là peuvent avoir la taille d'une tête d'épingle au bout de quelques jours, à peine. Et puis, au bout de quelques semaines, ça augmente. Ça peut avoir carrément la taille d'une grosse pièce de monnaie.
Oui.
Et même dans certains cas, ça peut être énorme, prendre toute la face ou toute une partie du crâne. Mais ça, c'est rare et on le voit à la naissance, bien entendu.
Vous parliez de la petite jaunisse, de l'ictère du nourrisson tout à l'heure. Donc, à la maternité, ça arrive dans quelle proportion ? Tous les enfants vont devenir un petit peu jaunes. Et il y en a beaucoup. Et pourquoi il y a ça, justement, chez le bébé ?
La jaunisse, c'est assez fréquent. C'est pratiquement 40% des bébés, 30-40% des bébés qui peuvent faire une jaunisse. Mais il faut retenir que ce qu'on appelle l'ictère, c'est ça la jaunisse, l'ictère physiologique du nouveau-né, la plupart du temps, passe tout seul. On va surveiller et dans certains cas...
On disait de mettre le bébé à la lumière.
Voilà, dans certains cas, on va mettre le bébé dans une lumière. Ça n'a rien à voir avec les UV, hein. Il ne va pas bronzer. C'est une lumière pour dégrader un pigment à la surface de la peau. Et on va surveiller en particulier une maman quand elle est rhésus négatif et que le bébé qui vient de naître est rhésus positif.
Ce qui est parfois perturbant quand un bébé dort, un nouveau-né, c'est que même en dormant, il est parfois un peu agité. On a l'impression, non pas tourmenté, mais...
J'avais l'impression d'avoir un petit cochon à côté de moi, il faisait des bruits, plein de bruits.
Ils ont un sommeil qui est un peu différent d'une autre, en fait.
Alors moi, j'encourage les parents, ces petits bruits des nouveau-nés, c'est merveilleux.
Ces ça fait un peu bruits, peur, moi, je trouve. On dirait qu'ils vont s'étouffer, moi,
mais
je trouve.
Mais oui, mais alors, c'est tellement merveilleux. Il y a cet apprivoisement des premiers jours, des premières heures aussi, déjà à la maternité. Il faut oublier tout son stress, il faut observer, écouter son bébé. C'est tellement extraordinaire. Il faut les enregistrer parce qu'ils vont vite partir. Et ces bruits sont essentiels. Effectivement, comme vous le disiez, le sommeil, souvent les parents l'oublient. Et après, il s'angoisse en disant « mais il a 2 mois, il ne dort toujours pas ben, ». Un bébé, effectivement, a un rythme ultradien, je ne vais pas développer là, mais ça veut dire qu'il s'endort en phase de sommeil agité, ce qui est tout à fait normal.
D'accord, avec les petits bruits de, comme je vous disais, moi, de cochon, des trucs comme ça, on avait l'impression qu'il s'étouffait parce qu'au début, ce n'est pas mature totalement ou parce qu'ils sont encombrés à la naissance, en fait.
Parce qu'il était dans un milieu liquide juste avant d'arriver. Donc, il va falloir que tout ça se mette en route.
Ils ont du mal à respirer vraiment ou pas ?
Alors, un bébé, par exemple, si vous lui bouchez le nez, ne va pas avoir l'idée de respirer par la bouche.
Ah oui.
Il faut que tout ça se mette en place. Donc, c'est pour ça que c'est important que le nez soit dégagé, qu'il ne fasse pas trop chaud dans la chambre, que ce soit bien hydraté, etc.
Autre angoisse des parents, elle est légitime, c'est la mort subite du nourrisson. Quand un enfant, une famille sort d'une maternité, quels conseils vous leur donnez justement pour prévenir ce risque ?
Alors, la mort inattendue, la mort subite du nourrisson, c'est quelque chose... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune interne, il n'y avait pas une garde, on n'en avait pas. C'était horrible, horrible. Ouais. Et heureusement, aujourd'hui, grâce à toutes les bonnes pratiques, c'est-à-dire ne pas trop chauffer une pièce, faire dormir un bébé sur le dos et non plus sur le ventre, ne rien mettre dans le lit, pas de doudou, pas de tour de lit, pas trop chauffer, je l'ai déjà dit, ne pas trop le couvrir, dégager un peu son nez, pas de tabagisme passif. Tous ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, on a réduit de plus de la moitié. Je crois que c'est 70% le cas de mort subite dans notre pays et c'est tant mieux.
Votre avis sur l'utilité, vous savez, maintenant on vend des objets, je ne sais pas trop si c'est marketing ou pas, mais des détecteurs d'apnée, des choses à mettre sous les matelas des bébés, de mettre des babyphones, est-ce que c'est trop ? Est-ce que ça ne sert à rien ?
Alors, le principe, c'est de mettre le moins d'appareils connectés dans la chambre d'un bébé. D'ailleurs, pour ça que beaucoup de parents font du cododo, et c'est bien le cododo pour se rassurer, ça rassure le bébé. Et par contre, les plaques, effectivement, pour détecter les apnées, on va dire que ça, c'est sur prescription. Si on a affaire à un ancien prématuré ou un ancien grand prématuré qui, sous traitement...
Mais ce n'est pas l'achat indispensable pour tous les parents.
Non, vraiment.
D'accord. Docteur Ferdoff, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur Arnaud Fersdorf. Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre Bébé, premier mode d'emploi chez Hachette Famille. Alors à présent, on va passer à toutes les questions que les parents peuvent se poser une fois de retour à la maison. On va pouvoir mettre bébé dans sa chambre, qu'on a préparée en général avec un peu d'avance. Mais attention, une chambre saine et sans danger pour bébé. C'est une chambre où finalement il y a très peu de choses, vous dites. Notamment le lit, rien dedans. À part le bébé, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on a eu du temps pour préparer la chambre de bébé. On est tellement content de rajouter plein de choses. Mais c'est vrai que ce qui doit avoir la plus grande attention des parents, c'est le lit. Pour les raisons qu'on connaît, pour éviter la mort subite. Et donc, rien dans le lit, un matelas conforme. Attention aux parents qui prennent des lits transmis par les grands-parents et qui ont plus de 20 ans. Il peut y avoir de la peinture qui s'écaille, qui n'est plus aux normes.
Même
il peut y avoir
peut
des perturbateurs
risqué,
endocriniens. Ouais. Donc j'attire beaucoup l'attention des parents là-dessus.
Et pas de cododo non plus. Le bébé dort dans son lit et pas avec les parents, même si les premières nuits, on peut se dire c'est pratique de l'avoir pas très loin, on est un peu fatigué, mais c'est une mauvaise chose.
Dans le lit des parents.
Alors oui, voilà, le cododo. Alors le cododo, c'est très bien, mais le cododo dans le lit, effectivement, comme vous le dites, propre à l'enfant. On fait maintenant des petits lits qui s'ouvrent facilement et qu'on met contre le lit des parents.
Oui, il y en a qui s'attachent au lit des parents.
Et ça, c'est très bien, ouais, parce que ça rassure la mère, le père. On entend les bruits du bébé, on peut identifier. Et c'est très important. On peut allaiter plus facilement, etc. Par contre, garder son bébé dans son propre lit, ça, moi, j'ai eu deux cas d'enfants qui sont morts, comme ça, étouffés par un des deux parents qui s'est endormi sur lui. Plus jamais. Donc, faut être prudent.
Alors, on va se concentrer sur les questions en lien avec le bébé lui-même. Pour sa santé, l'une des premières choses à faire en rentrant de la maternité, c'est de prendre ce premier rendez-vous avec le pédiatre qui suivra l'enfant.
Alors, c'est amusant parce que désormais, comme tout le monde est très connecté, je vois les mamans qui prennent des rendez-vous déjà en avance.
Enceinte encore, non ?
Oui, mais bien sûr. Et qui savent que le terme est à tel moment, elles veulent être sûres d'avoir de la place chez le pédiatre qu'elles ont choisi. Et alors, par les plateformes, etc., elles prennent leur rendez-vous. Alors, parfois, la bébé vient un peu plus tôt. Mais effectivement, en général, en moyenne, le premier rendez-vous chez le pédiatre, ça va être vers les 15 jours, 10-15 jours de vie. Plutôt s'il y a des choses à surveiller,
bien sûr.
Ou parfois à 3 semaines de vie quand c'est un deuxième ou un troisième enfant et que tout se passe très bien.
Ouais.
Vient ensuite de nombreuses questions, et notamment celle sur l'alimentation. Et vous dites dans votre livre, peu importe que ce soit un allaitement maternel ou le biberon, le meilleur choix, c'est celui de la mère, celle qu'on fera de façon le plus assumée, où on sera le plus épanoui.
Alors c'est très important. Je vais vous donner une anecdote. Quand je vois un bébé, pour la première fois, entre ses parents, au premier jour, il a 24 heures, et je demande, parce qu'on a besoin de le savoir, à la maman ou au papa, comment l'alimentez-vous, ou même en salle d'accouchement. Et la réponse est toujours la même. J'entends toujours la maman qui me répond. Quand c'est un premier bébé, quand c'est un deuxième, c'est plus assumé. Quand c'est un premier, j'entends toujours dire « j'aimerais bien essayer de l'allaiter
». Je crois que j'ai dit ça, moi
il y a
aussi.
Il y a deux mots de trop là-dedans.
Ah ouais.
Faites comme vous sentez. Ne vous laissez pas envahir par ce qu'on va vous dire, on va vous montrer du doigt. Si vous avez envie d'allaiter, vous allaitez. On sait bien entendu la qualité du lait maternel. On ne va pas en reparler là. Mais si vous avez envie de donner une préparation pour nourrisson et faire juste une tétée de bienvenue, par exemple en salle d'accouchement, vous faites ça, vous ne vous embarrassez pas. C'est vous qui décidez. Si vous n'êtes pas au clair avec ça, votre bébé va le ressentir et ça va partir en sucette.
Un allaitement forcé, ce n'est pas du tout bon pour la santé de bébé non plus, en fait,
entendu.
Finalement.
Mais vous avez raison, parce qu'il y a parfois même de la culpabilité, ces enfants que je peux suivre ensuite, lorsque je demande à la maman si elle allaite ou pas, pour savoir est-ce que je peux lui donner des médicaments qui vont ou pas passer dans le lait, parce que la question elle est là. Eh bien, une forme de culpabilité aussi en disant non, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Non, mais la question
excuse,
est ouverte.
Les femmes,
est-ce
c'est
que
ça,
vous, ouais. vous avez allaité ou c'est un biberon ? Peu importe, moi, ça m'est égal. C'est votre choix, mais c'est vrai qu'il y a encore une culpabilité des mamans.
Moi, personne ne me faisait culpabiliser, mais je me souviens qu'on culpabilise même nous-mêmes, parce qu'on entend tellement que le lait maternel est le meilleur, mais finalement, un biberon bien donné, les préparations dont vous parlez infantiles, qu'on trouve d'ailleurs en supermarché, en pharmacie, ça a une importance
alors,
pour la qualité du lait.
On les trouve sur Internet, il y a
des
laits français qu'on trouve avec des bonnes vaches normandes qu'on trouve sur Internet, des très bons laits. On ajoute maintenant du DHA, des acides gras polyinsaturés qui sont très bien pour le développement du cerveau. Ils ont fait énormément de progrès sur ce plan-là.
D'accord, donc vous pouvez l'acheter n'importe où.
Ensuite vient la question du poids, c'est l'obsession de tous les parents. Est-ce que mon bébé grossit suffisamment ? Est-ce que l'allaitement que je lui prodigue, est-ce qu'il est efficace ? Et parfois, les parents se demandent s'ils ne devraient pas louer une balance pour essayer de contrôler les apports des enfants. Ce n'est pas une très très bonne idée.
Non, pas de balance à la maison. Sauf si on a affaire à un bébé très hypotrophe, qui faisait des hypoglycémies, et on le laisse rentrer en disant voilà. Mais en général, c'est plutôt la sage-femme qui va passer, qui va peser le bébé.
On peut aller à la PMI peser son bébé.
On va aller
aussi,
à la PMI assez rapidement. Il faut éviter, sinon c'est très anxiogène. En fait, il faut faire confiance à son bébé. Et le maître mot, il est là. Apprivoisez votre enfant. Votre bébé, il a besoin de sentir que vous êtes détendu et réciproquement. Vous regardez comment il vit, comment il tète. Il ne faut pas laisser un bébé entêter pendant une heure d'affilée. Ce n'est pas bon, évidemment. Il faut vérifier s'il urine régulièrement. S'il urine régulièrement.
Comment on vérifie quand même ? Parce que donc, vous dites qu'on n'a pas le droit de le peser. Enfin, pas le droit, en fait, encore ce qu'on veut, bien sûr. Mais ce n'est pas conseillé de le peser tous les jours chez soi avec une balance exprès, là. Mais par contre, comment je sais que mon bébé, il profite bien du lait que je lui prodigue ?
Pour un bébé qui est normotrophe à la naissance, je ne parle pas des prématurés, un bébé qui est dans les standards, on va dire, entre guillemets, on surveille qu'il tète bien, que ça fasse glou-glou. S'il a le hoquet, c'est bon signe, ça veut dire qu'il a avalé. S'il est repu, qu'il s'endort, qu'il est calme à la fin d'une tétée ou d'un biberon, c'est bien. On vérifie qu'il a des urines régulièrement.
C'est quoi régulièrement ?
Ça veut dire à chaque change, pratiquement.
Ouais,
s'il y a deux couches de suite qui sont sèches, là, on passe un petit coup de fil, on regarde. Mais on n'est pas tout de suite allé sur Internet en se disant forcément il a un frein de langue, forcément il a un reflux, on l'écoute. S'il pleure, on ne le laisse pas pleurer. Un bébé, s'il pleure, c'est son seul moyen pour communiquer avec les adultes. On regarde ce qui se passe, ça peut être plein de raisons.
Autre chose qui est très mignon chez les bébés, un peu moins chez les adultes et notamment chez vous, Mélanie, la question du rot. Un bébé doit roter après un repas, c'est important.
Pourquoi il doit roter d'ailleurs le bébé ?
Alors en fait, je ne vais pas faire un cours de physiologie, mais pour faire court, la déglutition sur un sein, normalement un bébé qui est au sein doit pratiquement pas avoir de rot. Pourquoi ? Parce que la bouche est complètement ventousée sur le sein du bébé. Il y a une technique d'extraction et d'églutition du lait. Il garde la bouche fermée et la langue sortie. C'est assez extraordinaire. Sur un biberon ou une tétine, la langue est à moitié rentrée. La technique de ventousage n'est pas la même. Et du coup, il y a de l'air qui va passer. Et cet air va se cacher, se positionner dans ce qu'on appelle la poche à air gastrique. Et il va avoir du mal à le faire remonter. Et une fois qu'il est couché, ça peut même lui faire mal.
Et donc, c'est très important, surtout quand c'est un bébé qui est nourri au biberon, de le faire roter dans les combien de temps ? Parce que parfois, il est long à venir, ce rot. Alors s'il ne vient pas, est-ce qu'on peut le coucher ?
Il y a des techniques pour faire bien le rot.
Alors,
Mais il y a des techniques pour faire le rot.
Il y a des dessins dans votre
livre.
Oui,
j'ai fait des dessins dans le bouquin, on explique bien.
Très pédagogique.
Alors, la technique habituelle, on marche. Alors, moi, je conseille toujours, mettez-vous pieds nus, marchez sur les talons et vous tenez votre bébé tout droit contre votre épaule. Et vous le tenez. Et souvent, rien que de faire ça, ça va. Il ne faut pas taper fort dans le dos. Ce n'est pas forcément bon, parce que ça va transmettre des vibrations qui ne sont pas nécessaires. Il y a une autre technique, mais il faut avoir un peu plus d'habitude. Et c'est de le mettre assis dans la position dite du Bouddha. Mais il faut savoir tenir un peu les épaules, assis. Puis on le penche un peu en avant, on le met en flexion. Puis on le fait revenir un petit peu en arrière. On fait ça 2-3 fois de suite. Et là, je peux vous dire que le rot, il vient.
Ça rote à tous les coups.
J'ai essayé. Il a vomi dans la foulée. Je n'ai plus jamais refait cette technique.
Bon,
je n'étais pas de
pas bon.
Il y a le dessin. Peut-être que vous ne l'avez pas bien fait, Jimmy. Docteur Farnsdorf, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Arnaud Farnsdorf. Vous êtes pédiatre réanimateur et l'auteur du livre « Bébé, premier mode d'emploi » chez Hachette Famille. Alors avec vous aujourd'hui, on livre à nos auditeurs un guide de survie pour tous les jeunes parents. On a déjà parlé un petit peu alimentation. Évidemment, quand on rentre avec son bébé tout neuf à la maison, il y a aussi tout plein de petits soins d'hygiène et de soins tout court qu'il faut lui prodiguer, évidemment. Alors justement, avant de détailler ces soins, qu'est-ce qu'il faut avoir avant de ramener bébé à la maison comme kit vraiment indispensable de produits d'hygiène ou médicaments, on va dire.
Alors, moi je dirais, il faut avoir le basique, il ne faut pas avoir trop de choses. Mais le basique, c'est des compresses stériles, c'est du sérum physiologique en unidose.
Ça va servir longtemps, pour plein de choses.
Ça va servir longtemps. Et puis, et du paracétamol en pipette pour le jour où il commencera à faire de la fièvre, en sachant qu'avant 2 mois, un bébé qui fait de la fièvre, il faut tout de suite consulter ou appeler son médecin.
Dans les premiers jours, on doit s'occuper du cordon, on fait les soins de cordon.
Ça m'impressionnait beaucoup.
J'ai l'impression que ça impressionne souvent les parents qui n'ont pas forcément la bonne technique, même s'ils ont une très grande volonté. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait fait parfois comme il faut.
Alors le cordon, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous accompagne toute la vie. Couper le cordon, pas couper le cordon, il y a un mythe autour du
cordon. C'est pas très joli quand même.
Mais c'est vrai que... Alors nous, on trouve ça beau. Ouais. Avec le temps,
quand
on s'habitue.
Sèche, là, c'est un peu dégoûtant quand on ouvre la couche.
Au début, il est translucide et puis après, il se rétracte et puis il s'assèche. Et puis après,
après, il devient vert, marron, dégoûtant.
Il devient un peu dégoûtant, c'est vrai. Alors, c'est notre rôle aussi en maternité d'expliquer aux parents comment ça va se passer, quelles seront les étapes, et d'expliquer aussi aux parents comment faire les soins. On fait maintenant ce qu'on appelle des soins secs du cordon. On n'utilise plus de l'alcool pour désinfecter le cordon, sauf si l'accouchement a eu lieu dans un taxi ou à la maison. Bon. Mais sinon, dans une maternité, on fait des soins secs avec du savon doux, et on montre aux parents comment faire. Et je crois que c'est important de bien montrer, les sages-femmes et les péricultrices le font très bien, pour que les parents ne s'inquiètent pas, parce que dès qu'on prend une compresse un peu tiède avec un peu d'eau stérile dessus, le bébé va pleurer, mais non pas parce que ça lui fait mal, parce que c'est un peu frais.
Oui,
c'est une zone qui est sensible aux différences de température.
Bon, c'est bien d'avoir votre bouquin, moi, je trouve, parce qu'une fois qu'on est rentré à la maternité, moi, je trouve qu'on oublie tout ce qu'on nous a raconté à la maternité.
Voilà.
On avait les hormones, le stress, la fatigue, et je crois que finalement, c'est pas mal d'avoir un petit guide pour répéter tout ça.
Une fois que le cordeau tombe, alors on peut le mettre, on peut éventuellement le mettre dans la soupe si on veut, mais qu'est-ce qu'on continue les soins de cordon ensuite? Il y a encore des soins à faire?
Alors en fait, non, parce que le cordon est en général alors, il n'est pas toujours forcément tombé une fois qu'on rentre à la maison, bien entendu, ça peut mettre 3 semaines pour qu'il tombe.
Ah oui, quand même.
Ah oui, ça peut mettre du temps, parfois même un peu plus, mais en général, c'est maximum 3 semaines. On continue de nettoyer avec un savon doux. Il faut bien rincer, c'est extrêmement important, et bien sécher. Le séchage est essentiel. Après, les parents savent comment il faut faire si on met une petite compresse par-dessus, mais elle n'est pas indispensable. Et on montre encore en maternité comment faire pour mettre la couche de façon à ce que le cordon, la partie qui reste, soit au-dessus de la couche pour pas qu'il soit contaminé par les urines ou les selles.
Alors, on ne va pas parler en détail de comment on change des couches. Je vous invite à aller voir encore une fois votre guide. Justement sur les couches, combien de couches en moyenne un bébé ça souille par jour et pour que ce soit normal, justement, parce que vous disiez tout à l'heure, 2 couches sèches coup sur coup, c'est pas bon, mais en moyenne caca, pipi, combien de fois par jour un bébé?
C'est un gros budget, hein. Et nous, on a la chance d'habiter dans l'Est, parce qu'on a les Allemands, et bon, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu moins cher. Mais bon, j'ai rien dit. Ça dépend du transit du bébé. Un exemple, un bébé qui est allaité...
7 par jour.
Un bébé qui est allaité peut très bien ne faire qu'une selle tous les 4-5 jours.
Ah oui, mais pipi, par contre,
alors,
c'est plusieurs
fois. Alors, ça
fait
faire des économies. Par contre, il y a le pipi. Alors bon, on va dire que les couches, le premier mois, ça va être 5-6 couches par 24 heures.
Et avec quoi on nettoie les fesses d'un bébé? Je pense que les lingettes, il faut oublier.
Oui, on n'est plus tellement là-dedans. Il y a des tas de choses que les parents peuvent faire eux-mêmes à la maison. Alors, ils connaissent bien le mélange 50% huile d'olive, 50% eau chaude. Le liniment oléo calcaire, c'est très bien pour nettoyer. Ça permet aussi de faire des trucs pour les petites croûtes de lait.
Mais sinon, à l'eau, hein, tout simplement.
Et l'eau, tout simplement. De l'eau, du savon doux. Mais encore une fois, toujours bien rincé pour qu'il ne reste rien, en particulier au niveau des plis de laine, sous les bras, sous le menton. C'est des endroits qui macèrent un peu et on sèche bien. Et l'affaire est dans le sac.
Et qui dit changement de couche, dit parfois les premiers érythèmes fessiers, même si c'est rare, je crois, avant l'âge de 2 mois. Hein, chez le tout petit nourrisson, il n'y a pas trop de fesses rouges. Hein.
Ah, ça peut, ouais. Ça peut commencer au bout de 8-15 jours.
Vous allez bien avec des fesses parfaites.
Oui,
que vous
voilà, je pense que c'est ça. C'est ça, on peut le dire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais alors là, ce qu'on peut dire, c'est de ne pas hésiter. Parce que dès qu'on change un bébé, tout de suite, on se précipite, on veut mettre une couche propre. Attendons un peu, prenons un peu de temps, laissons notre bébé cul-nu, comme on disait autrefois, les fesses à l'air, ça va aérer, ça va éviter la macération, et ma foi, les fesses à l'air pendant 5 minutes par-ci par-là, ça fait pas de mal avant de refermer le tout.
Et justement, si ça ne suffit pas, est-ce que vous avez des conseils pour traiter justement cet érythème fessier qui angoisse beaucoup les parents et qui peut aussi faire mal au bébé, hein?
Alors, ça peut être très douloureux. J'ai eu un cas encore ce matin dans le train, téléconsultation dans le train, pour le faire. Ça peut être très anxiogène parce que ça peut très vite évoluer vers des fissures, vers
saigner
des surinfections,
même
saigner. Et alors, la couche ne va pas arranger le truc parce que ça va frotter. Alors, on laisse à l'air, on nettoie bien avec du savon doux, comme je l'ai dit.
Pas de talc, surtout.
Surtout pas de talc, parce que le talc peut donner des complications pulmonaires, parce qu'il peut y avoir un peu d'amiante dedans, enfin, ou d'autres produits qui ne sont pas très réjouissants. Et puis, on a des produits qui existent, par exemple, à base d'oxyde de zinc, que le médecin, à ce moment-là, va conseiller aux parents. N'utilisez pas des crèmes, des vieux tubes qui traînent à la maison. Faites attention, faites-vous conseiller.
D'accord. Alors, puisqu'on est dans les soins d'hygiène un peu autour du bébé, justement, est-ce qu'un bébé, ça se lave, prendre le bain tous les jours ou pas? Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Parce qu'on entend tout et son contraire parfois.
Eh bien, non. Maintenant, ce qu'on entend est tout à fait vrai. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la pédiatrie il y a un certain nombre d'années, on avait tendance à nettoyer tout de suite un bébé. Il fallait qu'il ait une peau toute douce, toute belle avant de le mettre dans les bras de la maman qui venait à peine d'accoucher.
Mais non, on nous les donne sales.
Mais
hein.
On les donne sales. Il faut laisser le vernix caseosa qui est sur la peau. Ça va nourrir, ça va favoriser le microbiote cutané et le microbiote intestinal, très important. Et on ne va d'ailleurs en maternité donner le premier bain qu'au bout de 24 heures, parfois un peu plus. Et à la maison, 2 bains par semaine, ça suffit amplement.
Oui, c'est tout.
Petite question comme ça à la volée, est-ce qu'on laisse un bébé pleurer? Parce que souvent on dit, attention, tu veux les habituer, c'est un caprice, il fait exprès.
Mais jamais. Jamais. Un bébé qui pleure ou qui crie, c'est qu'il a quelque chose à dire.
Il n'y a pas de caprice.
Ça peut être, ça n'existe pas. Alors ça, vraiment, il faut le rabâcher. Il faut chercher à savoir pourquoi il pleure. Ça peut être tout un tas de causes. Il est trop vêtu, il a trop mangé, il a une selle machin.
Il y a forcément quelque chose.
Il ne faut pas tout de suite lui donner un biberon ou le sein. Il faut chercher, il faut l'observer, essayer de décrypter.
Alors justement, comment on décode alors les pleurs d'un bébé quand on débute dans le métier? Parce que bon, vous, des bébés qui pleurent, j'imagine que vous en avez entendu des milliers, mais quand on est parent débutant, il y a des cris, c'est des cris quoi.
Moi j'ai envie de dire d'abord, ne pas laisser pleurer comme on l'a dit. Deux, ne pas écouter tous les conseils qui vont arriver de partout parce que ça sera forcément à côté de la plaque. Il faut s'écouter et c'est vrai qu'il faut se donner un peu de temps pour apprivoiser son enfant. Et les choses sont plutôt bien faites parce que je peux dire aux parents, vous avez 3-4 semaines devant vous. Allez, on va dire 3 semaines à partir du moment où le bébé est né. Parce qu'en général, les 3 premières semaines se passent bien. Les coliques, les fameuses coliques, ne commencent en général qu'au bout de 3 semaines. Et c'est là que ça devient vraiment difficile. Et les parents savent de quoi on parle. Donc, profitez de ces 3 premières semaines pour écouter votre enfant, l'observer, voir comment il réagit dans les pleurs, voir comment ça se passe quand vous l'habillez. Et vous allez comprendre et décrypter. Et au bout de 3 semaines, vous allez tout de suite comprendre, rien qu'en entendant, si c'est un pleur de faim, un pleur parce qu'il a sommeil ou un pleur parce qu'il n'est pas bien.
Bon, bah écoutez, il suffit d'écouter, d'observer son enfant et de se faire confiance. Merci beaucoup, docteur Fersdorf, d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos meilleurs conseils pour les jeunes parents débutants. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Bébé, premier mode d'emploi chez Hachette Famille. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, pour lancer cette séquence, on va commencer par écouter la question qui nous a été laissée par Cécilia.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors j'ai une question pour vous, c'est quoi Zona? Quels sont les symptômes? Est-ce que ça dure longtemps? Si une semaine, un mois, deux mois, plusieurs mois? Je crois qu'il y a un vaccin qui existe, mais j'en suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée.
Jimmy, alors vous allez nous éclairer nos lanternes, celle de Cécilia aussi, au passage, sur le zona. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Le zona, c'est une infection virale liée à un virus de l'herpès. Alors quand vous êtes petit, on attrape la varicelle. La varicelle, ça appartient au groupe herpès. Cette varicelle, vous allez en guérir, vous n'allez plus avoir de boutons, mais vous allez garder en mémoire à jamais le virus
dans qui le va système être immunitaire,
exactement,
ouais.
En particulier dans les ganglions qui se trouvent au niveau de la moelle, c'est-à-dire dans le dos. Et le zona n'est que ce virus qui s'est réveillé. Et comme la poussée d'herpès que vous avez au niveau du bouton de fièvre, là, au niveau de la lèvre, eh bien, vous faites une poussée de zona et qui touche des personnes et ça peut être un peu douloureux.
Est-ce que ça touche plutôt les personnes âgées? Je veux dire, est-ce qu'il y a une tranche d'âge où le zona peut survenir n'importe quand, à n'importe quel âge?
Alors ça commence à partir de l'âge de 50 ans où vous avez plus de risques d'avoir un zona puisque ce virus que vous avez dans les ganglions de la moelle,
ce qui
n'empêche
pas d'en avoir un à 25 ans aussi.
Exactement,
hein, c'est possible,
et même chez les
sûr.
Enfants, il peut en avoir, rare, mais on peut en voir chez les enfants. Eh bien ce virus, normalement, il est bien contrôlé par votre immunité. Il le garde sous contrôle et il vous empêche de faire une poussée. Et puis avec l'âge, on sait que le système immunitaire est moins performant et que vous avez plus de risques d'avoir un zona. Si on regarde les personnes qui ont plus de 85 ans, eh bien c'est une sur deux qui fera un zona dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent et qui évolue donc avec l'âge.
Et alors c'est quoi précisément les symptômes du zona? Est-ce que c'est très douloureux? On a l'impression là, cette impression-là, mais en fait c'est quoi?
Alors c'est une éruption cutanée qui commence pas toujours par des boutons. Vous avez d'abord des douleurs. Ces douleurs, elles vont survenir, je vous avais dit que c'est des ganglions dans le dos, au niveau de la moelle, où vous allez avoir le virus qui va commencer à essayer de sortir et qui va sortir sur un territoire très particulier, celui d'une racine d'un nerf. Si je vous parle de la sciatique, vous savez que ça parle dans le dos, ça descend dans la fesse, dans les jambes, et bien là c'est la même chose.
Ouais.
Si jamais vous avez un zona au niveau du nerf sciatique, eh bien vous allez avoir une éruption cutanée qui va précéder d'abord une des douleurs. Et donc au début, on ne sait pas ce que vous avez. Des gens vont consulter, ils savent pas, ils ont terriblement mal, on pense que c'est un lumbago. Sauf qu'au bout de 24-48 heures, il y a une éruption cutanée. C'est un seul côté qui est touché. Ça forme des petites vésicules, des petites bulles avec des petites...
Un peu comme la varicelle, ça ressemble.
Exactement.
Quand même.
Sauf que c'est très douloureux et c'est la moitié du corps qui est touché.
D'accord. Et je crois que parfois, il peut y avoir même des complications. Lesquelles, précisément?
Alors, la complication principale, puisque finalement, vous allez tout le temps guérir d'un zona. Il y en a plusieurs. D'abord, ça va dépendre de la localisation. Si jamais vous avez un zona au niveau du visage, il peut y avoir une atteinte oculaire ou parfois même du nerf auditif.
Ah
donc là, c'est une urgence. Il faut absolument vous faire traiter avec un avis spécialisé. Et puis, même d'une façon générale, si vous avez un petit zona, entre guillemets, le risque, c'est d'avoir une douleur post-zoestérienne. C'est-à-dire qu'à la suite du zona, Vous gardez des douleurs à type de névralgie et des douleurs qui sont invalidantes et qu'on a du mal à traiter avec les médicaments conventionnels.
Bon, comment ça se traite rapidement, Jimmy ?
Comme c'est une infection virale, je l'ai dit, virus de l'herpès, eh bien on donne un traitement contre l'herpès. L'idéal, c'est de le prendre le plus tôt possible pour stopper la poussée et éviter d'avoir ces douleurs, car si vous prenez le traitement au bout de 4-5 jours, eh bien on sait que ce n'est pas très efficace. Donc l'idéal, c'est d'avoir un traitement dans les 48 heures. Plus tôt vous prenez les médicaments, plus tôt vous serez guéri.
Et Jimmy, je crois qu'il y a, donc, comme le signalait Cécilia, il y a un vaccin contre le zona qui est recommandé pour quelle population ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce vaccin ?
C'est un vaccin qu'on recommande de 65 à 74 ans. Ça laisse une petite fenêtre. Puisqu'on sait que ça va être efficace sur le risque de zona. Vous avez 65% de risque en moins de faire un zona, donc c'est-à-dire que ce vaccin est efficace. Et vous avez en plus 65% de risque en moins de faire les complications liées au zona. Donc je vous invite à en parler à votre médecin et c'est valable. Même si vous n'avez jamais eu la varicelle, vous pouvez vous faire vacciner contre le zona et aussi contre l'ensemble des autres infections. Donc vous devez faire votre vaccin contre la grippe, le DT polio, faites-le en même temps, mais en tout cas, parlez-en à votre médecin.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, elle s'installe avec nous dans ce studio. C'est Catherine Blanc, psychologue et psychanalyste pardon, et sexologue
pas grave,
à Paris.
Pas.
Bon, je crois que les gens vous connaissent hein, de toute façon.
Oui, voilà.
Ils viennent
on va arrêter avec le CV.
Bon, très bien. Catherine, aujourd'hui, on n'a pas de questions d'auditeurs car Jimmy voulait parler de l'impact de la ménopause sur la vie sexuelle du couple.
Bah oui,
il s'est dit, tiens, ce lundi, j'aimerais beaucoup en parler.
C'est pas encore complètement votre sujet, mais en tout cas, vous avez raison de vous y préparer.
Bon, est-ce que c'est un sujet d'ailleurs, Catherine ? Est-ce qu'il y a vraiment, on parle surtout de ménopause, de ménopause de la femme évidemment, est-ce qu'il y a vraiment un changement dans les rapports sexuels, toujours ? Est-ce que c'est systématique ou est-ce que même parfois, il ne se passe rien en fait ? Pourquoi pas ?
Alors d'abord, la ménopause c'est un sujet. On ne va pas faire comme si ça n'en était pas. C'est un sujet, puisque comme c'est un sujet aussi d'avoir ses règles pour la première fois, comme c'est un sujet d'avoir un bébé, eh bien c'est un nouvel épisode pour la femme qui nécessite évidemment une acceptation de cette nouvelle étape, sans le vivre comme toujours une défaillance, mais comme une possibilité nouvelle et un renoncement au passé. Donc évidemment, vous comprenez bien que c'est du coup un moment qui va être vécu pour certaines joyeusement parce qu'elles n'ont plus leurs règles. Pour la majorité des autres, c'est plutôt un deuil à faire d'une fertilité quand bien même on ne voulait plus d'enfants. Et puis aussi un nouveau contact avec son corps, peut-être des petits symptômes pour certaines, des gros pour d'autres. Et tout ça déstabilise suffisamment pour que la communication avec le partenaire, avec le mari, ne soit parfois pas si simple que ça, parce que évidemment à ce moment-là, il faut retrouver ses repères et avoir l'idée qu'on n'a pas vieilli. Pourtant, on vieillit bien sûr.
Et cette baisse de libido, elle est brutale ou elle apparaît progressivement? Puisqu'on a l'impression que ça y est, la ménopause est claque.
Elle n'a pas parlé de baisse de libido, hein. C'est vous qui
allez déjà. Mais...
Voilà,
ah oui,
il a dit ménopause, baisse de libido. Ouais, allez,
mais j'ai fait le mal. On est dans la rubrique sexo, on ne va pas parler d'autre chose.
Non, mais
excusez-moi.
Vous avez raison. Non, mais c'est vrai qu'il
peut y avoir d'autres symptômes.
Alors, outre les petits symptômes désagréables, évidemment, il y a de toute façon une paroi vaginale qui se fait plus fine, une lubrification qui est beaucoup plus difficile. Donc, pour certaines, le fait que ce soit effectivement un peu moins confortable entraîne naturellement la difficulté d'aller très facilement vers la sexualité puisqu'elle peut s'avérer être inconfortable, voire douloureuse.
Mais du coup, c'est progressif ou brutal, comme le demande Jimmy ?
Alors, ça dépend, parce qu'il y en a certaines, c'est parce que cette lubrification se fait moins facilement que du coup, il y a une sorte d'appréhension à aller vers la sexualité. Et d'autres, avant de sentir que la lubrification est moindre, elles sentent comme un arrêt, comme un silence dans leur corps, dans leur sexe. Et du coup, elles ne trouvent plus par quel biais, puisqu'il n'y a plus d'élan. Et en plus, le corps ne semble pas réagir aux sollicitations masculines.
Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive aussi chez l'homme ? Parce qu'on a l'impression que la ménopause signe la fin de l'activité sexuelle de la femme, alors que l'homme, jusqu'à sur son lit de mort, pourrait avoir une érection tant il est vigoureux et fort.
Mais il a l'andropause, attention Jimmy. Mais c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup moins, non, mais c'est pas un sujet, on dirait l'andropause.
Parce que ce n'est pas, les hommes ne sont pas égaux là-dessus. Donc évidemment, certains s'en sortent très très bien. Des hommes entre deux érections, en des périodes réfractaires plus ou moins longues avec le temps. Donc évidemment, il n'y a pas le même rendez-vous. Ce n'est pas la même chose pour un jeune homme qui à peine a-t-il fait l'amour. Pour certains, ne débandent même pas, qu'ils sont prêts à refaire l'amour. Pour d'autres, débandent, mais rebandent rapidement. Et puis d'autres, autres, évidemment, il leur faudra, selon les âges, bien sûr, plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc, c'est quand même très différent d'une pérennité de silence qui peut se produire chez la femme, d'où des tas de possibilités, bien sûr, prendre soin de soi. Il y a aussi ce que proposent les traitements hormonaux substitutifs qui redonnent...
Ça peut aider sur la libido, améliorer la sexualité ?
En tout cas, améliorer bien la lubrification de façon considérable, en effet. Il y a aussi des traitements laser, il y a des tas de choses qui sont proposées, qui sont, selon les femmes, puisque tout ça...
Des injections d'acide hyaluronique dans le vagin, je crois. On en avait parlé une fois dans cette émission.
Absolument. Et puis du laser aussi pour repulper la paroi génitale qui permet effectivement cette lubrification. Mais encore une fois, ne réduisons pas le désir féminin à la lubrification. Ce sont deux choses différentes qui concourent...
Le désir peut être là, mais c'est juste techniquement, ça ne marche pas très bien.
Et inversement, la lubrification, on peut avoir réparé par biais médical ou en tout cas renforcé par biais médical la lubrification sans pour autant que le désir trouve son chemin.
Et parfois l'image du corps change et donc du coup on a peut-être un peu moins confiance en soi et donc par conséquent un peu moins de libido, moins d'envie.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme ne fait plus de bébé ou ne peut plus faire de bébé, bien sûr qu'elle avait déjà décidé de ne plus en faire, mais à partir du moment où elle sent qu'elle est définitivement arrêtée dans cet élan, il faut qu'elle se reconsidère. Et évidemment qu'à ce moment-là, elle revoit même dans la glace tout ce qui l'a fait prendre conscience de qui elle est, qui elle devient. Et donc, c'est aussi un rendez-vous douloureux avec son corps. Or, pour faire l'amour, on le sait très bien, il suffit bien sûr pas seulement du regard aimant, mais aussi de s'aimer soi-même. Et c'est souvent à ce point de rendez-vous que la femme se trouve en difficulté.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour,
bonjour Mélanie.
Alors
aujourd'hui, trois personnages qui ont une particularité, et oui, un point commun. Ils sont tous morts à l'hôtel. Alors il y avait, hein Mathieu, il y avait Coco Chanel.
Tout à fait, elle est morte dans sa suite de Ritz. C'est classe, oui.
Oscar Wilde, lui, est mort dans un hôtel beaucoup plus miteux. Et vous avez trouvé une histoire incroyable, un personnage qui est mort dans des conditions très étranges.
Oui, on va décrescendo dans cette émission en termes de qualité hôtelière. On passe du Ritz à un hôtel 3 étoiles, à un bouge de Bangkok, où l'acteur David Carradine, Bill dans Kill Bill, a été retrouvé un petit peu décédé et un petit peu attaché par le pénis. Je vous raconterai tout ça.
Quel teasing, messieurs. J'attaché par le pénis. Très bien. Écoutez, évidemment, vous vous doutez, je vais rester sur Europe 1.
Là, cette fois, je suis sûr qu'il va rester.
Et vous également, n'hésitez pas. Une histoire de pénis attaché, ça a l'air génial. Restez sur Europe 1.